reprendre la typologie des jouets à la Renaissance en se demandant s'il y a une spécificité des 15e et 16e siècles peut permettre de poser en réalité toute une série de questions, par exemple sur le rôle du jouet dans les apprentissages corporels ou dans la socialisation au genre ou encore dans l'importance de leur diffusion dans un monde qui commence à devenir un monde proto-industriel. Alors, est-ce que les jouets étaient réservés aux élites ou pas? C'est une des questions que je voudrais poser. Alors, distinguer les jouets de leur contexte ludique n'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, dans le tableau de Bruegel qui s'intitule « Les jeux d'enfants » daté de 1560, « Jeux et jouets font bon ménage ». On y distingue aussi bien des cerceaux, des toupies, des jeux de boules, des moulins à vent, des chevaux jupons, des pièces à lancer, etc. Des boules. Et je dirais que dans l'album d'estampes de Nicolas Prévost, qui est un petit peu plus tardif, 1547, on se retrouve dans des jeux qui mettent en scène des jeunes faisant un exercice de l'arc, de la lutte, et les jeux et les jouets. Alors ce que je vais exclure de mon exposé, évidemment, c'est les jeux de cartes et les jeux de dés, qui seraient tout à fait intéressants. Il y a toute une iconographie sur laquelle je voudrais passer. Je ne parlerai pas non plus des jeux de table, jeux de plateau, jeux d'échecs, loto, jeux de dames, qui existent évidemment à la Renaissance. On appelle le jeu de dames en France en 1535 le jeu forcé. Tout ceci nous épargne d'expliquer les nombreuses règles des jeux de cartes, des jeux de dés ou de plateau qui sont d'une terrible complexité et qui m'évoquent personnellement un épisode de Kaamelott que vous connaissez tous. Je voudrais commencer par les jouets accessoires des jeux d'action. Un certain nombre de jouets, effectivement, ont ce rôle. C'est le cas, par exemple, des chevaux jupons ou des chevaux bâtons, comme on les appelle parfois. On les a vus tout à l'heure dans le tableau de Bruegel. On les retrouve souvent aux Pays-Bas. Ils sont aussi représentés par Hans Ball en Allemagne ou encore en France sur une danse macabre ou encore en Espagne, comme vous voyez ici, sur un portrait de Don Diego, fils de Philippe II d'Espagne. C'est pourtant surtout en Angleterre qu'ils sont massivement répandus lors des May Games. Et là, on comprend mieux pourquoi on appelle ça des chevaux jupons. Et ils sont décrits notamment par toute une série de novellistes. Autre type de jeu, toujours populaire aujourd'hui, était très commun à la Renaissance, c'est les armes jouées. Épées de bois, arc, effectivement, qu'on peut se fabriquer tout seul. Mais certaines de ces armes jouées étaient très sophistiquées. Et certains musées ont ainsi conservé des canons miniatures. En France, vous avez plusieurs modèles du XVIe siècle, conservés par exemple au musée des Beaux-Arts de Dijon ou encore au musée de l'armée. Aux États-Unis, l'Art Institute of Chicago abrite une couleuvrine miniature avec son système de rechargement, ce qu'on appelle son jeu d'armes, et fondu par l'Autrichien Hans Reisberger vers 1595. Alors d'autres modèles survivent probablement un petit peu partout. Vous avez aussi des armures miniatures. Alors c'est compliqué le statut des armures miniatures. Certaines sont destinées à apprendre le métier des armes pour un enfant. Et donc elles servent en partie à éduquer le jeune corps des princes au port de ces protections d'acier qui vont être leur lot quotidien. Le musée de l'armée en possède plusieurs exemplaires remarquables. Et dans sa réserve arsenal notamment, mais la plus belle est sans conteste l'armure du jeune Louis XIII, offerte par Louis de Nassau en 1611, avec son décor à bandes, un motif floraux doré à leur fin, le tout pour un enfant de 10 ans à peu près. Est-ce que ce sont des jouets? On voit bien que là, il y a toute une ambiguïté, mais il est clair que le but ici, c'est la formation du corps. Et ce sont là des objets d'un luxe extrême. Mais le tableau du jeu des jeux de Bruegel montre que l'on pouvait se débrouiller très très bien avec des épées ou des masses de bois pour simuler la guerre des grands avec beaucoup moins de moyens. Autre jeu d'action, les cerceaux. Leur dessin orne le bréviaire d'Éléonore de Portugal, ou encore le livre d'heures à l'usage de Rome, dont vous avez ici un extrait, la British Library. Et on sait que, par exemple, le jeune Matthäus Schwarz, banquier comptable des banquiers, les Fugger, ici se représente jeune homme, vous voyez, ou jeune garçon, jouant au cerceau dans sa bonne ville d'Augsbourg. Les échasses, par exemple, les échasses sont un jeu assez fréquent à la Renaissance. Je ne détaille pas. Viennent ensuite les jouets d'adresse. Alors, Gargantua, qui savait jouer d'Irablé à 217 jeux, évidemment, le jeune géant, c'est tout, jouait au quille, au rapport, à la boule plate, au virton et au picaro. Alors, etc., etc. Alors, on n'est guère capable de comprendre aujourd'hui ce qu'étaient tous les jeux. Par exemple, le virton ou le picarou, moi, me laisse un peu perplexe. Mais il est clair que les jeux d'adresse participaient de la formation obligatoire d'un jeune prince, fut-il géant. Les jeux de balles ou de quilles sont autorisés dans de nombreuses villes italiennes, comme le prouvent les statuts de villes, hein, qui est le Città di Castello, Città d'Ossimo, Città di Fermo. Et les jeux de boules étaient aussi très appréciés des Anglais. On se souvient que Francis Drake, dit la légende, jouant aux quilles, attendait l'invincible armada à Plymouth. Vous aviez aussi, au XVIe siècle, on en a trouvé par des fouilles, des bowling alleys dans Londres, qui étaient très fréquentes. Et Henri VIII avait d'ailleurs fait aménager une splendide allée de ce type à Hampton Court, et d'après l'historien John Stowe, le comte de Northumberland possédait dans son palais londonien une bowling alley. Les billes étaient évidemment beaucoup plus facilement réservées aux enfants. Bruegel les dépeint, vous les voyez ici. On les trouve également dans les heures à l'usage de Rome, de la British Library, etc. Parmi les jeux de l'école, on trouve encore, voilà, une bowling alley ici. Parmi les jeux d'adresse, les osselets font partie des jeux importants. Ce sont au départ de simples métatarses de porc ou de mouton, mais très vite on finit par les réaliser en terre cuite, en céramique ou même en métal. Et là encore, Bruegel est un excellent témoin, mais vous avez aussi l'archéologie qui nous fournit des exemples, comme ici une fouille anglaise dont je parlerai dans un instant. Voilà, alors il faudrait aussi parler des toupies, très très présent chez Bruegel pour des tas de raisons, y compris symboliques. Elles ont une place, par exemple, très très forte dans le combat de carnaval et carême. Fouetter la toupie avec un fouet et la tenir en l'air le plus longtemps possible était effectivement affaire de doigté. Et la force centrifuge qui tient l'objet debout, bien que connue et même utilisée dans les dispositifs inertiels, y compris pour les tours d'ailleurs avec lesquels on fait les fameux jeux d'échecs, les roues de potier, les de menuisier, ces systèmes inertiels, et sans doute en l'absence d'explications rationnelles cohérentes, parce que c'est pas trop ce que c'est que cette force inertielle, ça a un aspect magique qui fascine et qui fait partie du jeu. Viennent encore aujourd'hui, hein, je veux dire. Et vous avez également les jeux bruyants, les jeux éducatifs bruyants, on en parlait, ils existaient dans l'Antiquité, je pense qu'on pourra échanger là-dessus. Grelots, sonnettes, sifflets, crécelles ne sont pas réservés aux tout petits enfants, mais ici vous avez le prince de Galles qui joue, vous voyez, avec ce genre de grelots. Bruegel les représente aussi, et l'archéologie, on en trouvait quantité d'exemplaires. Je rappelle que Pierre Desbroches faisait collection de photographies d'enfants laids. En voilà une. Parmi les jouets qui m'intéressent aussi, les jouets à vent, dits moulins à vent. Alors les moulins à vent expriment certainement la fascination des enfants de la Renaissance, d'ailleurs des enfants actuels, je me rappelle qu'il y en avait dans Pif Gadget quand j'étais petit, pour ces objets technologiques impressionnants, qui sont des machines qui utilisent la force éolienne. John Florio, le traducteur en anglais de Montaigne, auteur d'un dictionnaire, les décrit en ces termes. Un morceau de carton ou de papier coupé en croix avec une épingle en son centre, fiché sur un bâton qui, lorsque l'on court contre le vent, se met à tourner. Alors, vous avez plein de représentations de ces choses-là, vous voyez, de, à la fois dans le livre d'heures de 1540 de la British Library, un tableau de Pierre Moucheron de 1563, ou encore chez Bruegel. Les moulins à vent, une variante, certains de ces moulins peuvent s'envoler en l'air, et on découvre aussi avec ces moulins l'effet de la portance. Vous savez que Léonard de Vinci avait travaillé sur ces questions de portance. Le soi-disant hélicoptère de Léonard de Vinci, tel qu'il est décrit dans le Codex Atlanticus, est décrit non pas comme un vrai hélicoptère, mais un jouet en carton et en bois. Donc il faut aussi se méfier des explications prospectives. Alors, le fait qu'un de ces tourniquets apparaisse ici chez un primitif français du XVe siècle, tableau intitulé « La Vierge à l'enfant avec Saint Benoît », vous en avez aussi un du même genre dans un livre d'heures de Jean Colombe, et un plus sophistiqué encore dans le polyptyque d'Anquin, réalisé par Jean Belgambe. Je dirais que ce qui est très intéressant ici, c'est que vous voyez, on tire sur une ficelle et ça fait tourner le moulin. Alors, il n'est pas dit, il y a eu un article là-dessus, il n'est pas dit qu'en fait ça vole pour autant. Peut-être ça se contente de tourner. Rien ne permet dans ce dessin de dire que ça vole. Cela étant, chez Tacola, un prédécesseur de Léonard de Vinci, il y a la description d'un engin comme ça qui lui vole. Et vous voyez qu'il est assez proche des idées d'hélicoptère de Léonard de Vinci. Jouer technologie encore dans les cerfs-volants, qu'on trouve très tôt, par exemple, dans le Billy Fortis de Conrad Kisser, début du XVe siècle, dans les fêtes de cour. Vous savez que lors du camp du Drador, on a fait voler un cerf-volant dragon. Et puis également au début du XVIIe siècle, chez un certain John Bates, qui était une des grosses lectures du jeune Newton. Vous voyez, les liens entre les jouets et l'imagination technologique et scientifique, je pense, sont à creuser. Alors, continuons la typologie en disant quand même deux mots des poupées, marionnettes et figurines. Je vais essayer d'aller vite. C'était l'un des jouets incontestablement les plus communs de la Renaissance. Elles étaient faites de chiffon, d'argile, de bois, de papier pour les plus modestes, de cire, de tissus précieux montés sur une âme de fil de fer, ou même de sucre et de pain d'épices. Elles étaient alors mangeables. Pour les milieux les plus élevés, on avait des choses très très sophistiquées. Et tous les pays d'Europe ont bien leurs poupées. Une petite fille en étreint une dans un tableau déjà cité de Bruegel, je vous en ai mis quelques-unes ici. Anne de Bretagne en offre une en 1497 à la reine Isabelle d'Espagne. On trouve une poupée dans le trousseau de la sœur de Laurent le Magnifique en 1466, dans celui de Costanza Benci en 1518, et en 1558, Albrecht V de Bavière fait même fabriquer pour sa fille une maison de poupée, carrément avec une salle de couture, une chapelle, des musiciens et un prêtre. Et dans un portrait d'Arabella Stuart, une petite fille serre contre elle une poupée de mode. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des statuts très différents de la poupée. Des poupées qui peuvent être des poupées religieuses, j'en reparlerai à propos des usages, des poupées qui peuvent être des poupées pour enfants, mais qui sont aussi des poupées de mode. Et là, il y a des glissements dans les usages qui sont très intéressants. Thomas Harriot, savant anglais parti à la conquête du Nouveau Monde, sur l'île de Roanoke, au large de la Caroline, offre en 1585 une poupée à une jeune indienne. Et le dessinateur John Noy, j'ai pas repris là le dessin, représente cette petite Algonquine jouant à la poupée dans ses illustrations. Voilà, impossible donc de recenser toutes ces apparitions, tellement elles sont nombreuses, mais on découvre même que les garçons jouaient à la poupée, puisque Marguerite de Navarre décrit un jeune prince partageant ce jeu avec sa sœur. Les poupées entre eux-mêmes dans l'univers des contes, et Christian Clapier-Gilbert rappelle que celui transcrit par Stoparda en 1530, où le jouet acheté au marché, mais magique, défecte des pièces d'or, puis étant volé, ne produit plus que des excréments, beaucoup plus nauséabonds, et enfin retrouvé par un prince, permet à la jeune propriétaire devenue grande d'épouser celui qui devient roi et d'abandonner ses jouets. Voilà. Le dernier point de ma typologie, c'est celui des figurines et des petits soldats, qui étaient également omniprésents. C'était fait en argile, en alliage de plomb, On en trouve à Grimsby dans le North Yorkshire, en bois, en curage, en étain, etc. Et toujours Matthau Schwarz, le comptable des Fuggers, mais vous voyez, il n'est pas encore comptable à cette époque, joue ici, vous le voyez, avec deux petits chevaliers. Il a 6 ans à ce moment-là. L'historien Guillaume de Reid offre par ailleurs à Guillaume d'Orange des petits soldats en étain pour qu'il puisse réfléchir concrètement au nouveau système de son armée. Alors vous voyez, c'est des jouets, mais c'est aussi autre chose. Et voilà, des vers en hollandais de Jacob Katz évoquent encore au début du XVIIe siècle des petits soldats avec porte-étendard et tambour de guerre. En 1614 enfin, et on excusera cet exemple tardif, on présente au prince d'Espagne, futur Philippe IV, une volumineuse boîte de soldats en bois. Il y a là des régiments, des compagnies avec leurs drapeaux, des armes, des éléments logistiques, tentes, ateliers d'armuriers, échoppes de barbiers, chirurgiens, forges, etc. Des canons, un lac miniature, des pontons, des arbres et même un château à assiéger. Il s'agit du premier wargame complexe connu en Europe, décrit dans une édition du temps en espagnol et en latin par son concepteur, qui était un certain Alberto Strozzi, économiste. Oui, c'est sérieux les choses, et actif à Bruxelles. Et le but ultime était de faire connaître au prince Philippe les Pays-Bas espagnols, l'armée qui défendait les Pays-Bas espagnols et la fameuse armée des Flandres entretenue aux Pays-Bas depuis 1567. Donc c'est l'armée espagnole des Pays-Bas à son zénith que l'on a là. Alors malheureusement, ce jouet a disparu dans un incendie et on doit se contenter de la description littéraire qu'en donne Strozzi. Apprendre le métier de roi, c'est apprendre le métier de chef de guerre et vous voyez, ça passe par le jeu. Ma deuxième partie, mais qui sera beaucoup plus rapide et plus conceptuelle, est là pour parler un petit peu des usages et de la fabrique des jouets de la Renaissance. Alors, la plupart des fabrications de jouets était bien entendu local, mais il existait également des manufactures de jouets spécialisées réparties dans toute l'Europe. À Paris, par exemple, la rue Saint-Denis abrite des poupetiers ou poupeliers depuis le début du XVIe siècle. Et grâce aux archives, on connaît les noms de certains d'entre eux, Claude Lecoq, 1556, Massé de la Flaire, 1584, et sous Henri III, ces poupetiers parisiens intègre la guilde des bimbelotiers, ce qui atténue la concurrence qui les oppose aux menuisiers. D'autres choses se développent ailleurs en Europe, notamment dans les régions riches en bois, Nuremberg, Sonneberg, Judenberg et Augsbourg furent des exemples très tôt de larges centres de diffusion de jouets internationaux. À Nuremberg, il y a eu jusqu'à 17 ateliers de fabricants de jouets et ont fondé également des figurines en étain, telles que celles dont on vient de parler. À Londres, vers 1540, circulaient encore des figurines équestres en céramique de facture allemande qui étaient produites en masse pour l'exportation. Il est évidemment difficile de proposer une analyse quantitative de tout cela, mais une trouvaille dans l'église de Saint-Dionysius, près de la ville de Market Harborough, près de Leicester, en Angleterre, atteste de l'existence de stocks fabriqués localement et assez importants. Alors, il y avait là sous un escalier caché depuis le XVIIe siècle quelques 200 jouets, peut-être confisqués à des enfants, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a un énorme stock qui est là. Et il y avait là des toupies, des sifflets, des cloches, des osselets, des balles, des bâtons, etc. Et la plupart de ces objets ont été tournés. Donc, on retrouve bien cette nouveauté technologique tournée sur des blocs de bois de saule, de noisetiers, d'arbres fruitiers divers. On utilise aussi l'os, le cuir, l'argile, uniquement des produits bon marché. Donc là, on est dans la mass production. À quoi servent les jouets? Ce sera ma façon de conclure un petit peu tout ça. À quoi servent les jouets? Alors c'est moins dans l'Homo Ludens de Huizinga que nous trouvons des réponses à cette question, puisque l'auteur s'intéresse plus aux jeux qu'aux jouets, mais dans les analyses anthropologiques plus récentes. Une des premières vocations des jouets est d'aider à apprendre des actes moteurs ou des actes sociaux. apprentissage à interagir avec le monde par le bruit, dans les grelots, tout ça, on l'a vu, j'y reviens pas, apprendre à se battre avec les épées ou à chasser avec les arcs en bois, à mimer les tournois avec les chevaux jupons ou les tourniquets, à porter l'armure dès le plus jeune âge, pour les princes, à longer des bambins dans des figures de dévotion de poupées de ce qu'on appelle les bambini florentins, mais qui sont à la fois, vous voyez, des choses qui sont liées aux religieux, mais qui en même temps sont aussi des façons de mimer le travail des adultes. Et dans un tableau de Cranach mettant en scène une allégorie de la charité, une fillette de 4 ans dédouble très clairement, je vais vous la montrer, voilà, dédouble très clairement les gestes de sa mère avec la poupée. Voilà. Alors les jeux d'adresse ont l'occasion évidemment de développer l'aisance corporelle, je n'insiste pas. Donc les jeunes filles apprenaient ainsi leurs futures tâches domestiques en jouant avec des pots et des plats en terre, on a retrouvé ça aussi en Angleterre, des jouets de terre cuite miniature. Et les poupées florentines avaient par ailleurs sans doute pour autre vocation, comme l'attestent les sources comptables, lorsqu'on les retrouvait dans les trousseaux, de remplir en quelque sorte un rite de fécondité. Alors c'est aussi un rôle du jouet. Un rôle d'apprentissage aussi à la dévotion. Christiane Clapiche montre avec discernement dans son article sur les saintes poupées à Florence au XVe siècle que la ligne qui passe entre les pratiques dévotionnelles et les conduites ludiques est très fragile, très ténue. De fait, en 1505, on trouve à Florence, dans le trousseau d'une nonne, une poupée d'enfant Jésus, vêtue de velours cramoisi, et les poupées de saintes étaient extrêmement répandues. Et dans les églises de Florence, il était d'usage de dresser une poupée d'enfant de Jésus au-dessus de l'autel à Noël. Et le maniement fantasmatique de l'objet ludique, on le comprend ici, était réputé ouvrir la voie du divin aux esprits faibles et malléables des femmes et des enfants. Voilà. Alors, le désir d'avoir comme l'autre, ou d'être comme l'autre, nourrissait ainsi psychanalytiquement une introduction à la vie dévote. Et là encore se créait par le jeu la possibilité d'apprendre des gestes de dévotion et de représenter le sacré. Le jeune Matthäus Schwarz, j'aime bien les comptables, surtout les jeunes comptables de milliardaires, j'adore ça. Le jeune Matthäus Schwarz eut vers 8 ans la vocation d'être prêtre. Et il s'était même fait offrir par ses parents, dit-il, une reproduction miniature d'autel et mimer les gestes d'un curé. Il fait 6 ans, il joue au petit soldat, et à 8 ans, il veut devenir curé. Il finit comptable. Le désir enfantin de régir un monde, reconnaissable dans le rapport aux poupées et aux maisons de poupées, était non moins identifiable, je pense, dans le rapport aux figurines et aux armées miniatures. Dans le cas des collections princières, le jouet peut même devenir l'affaire des grands et devenir la base de Kriegsspiel. Et les soldats réifiés de la guerre moderne, aux gestes automatisés, les carrés de piquet, d'arquebusiers bien rangés, ne sont-ils pas pratiquement, aux yeux de ceux qui les commandent, des petits soldats sacrifiables pour gagner la mise? Donc je finirai par la phrase de Montaigne. La phrase de Montaigne qui me fournit mon titre, il faut noter que les jeux des enfants ne sont pas jeux et il faut juger en eux comme leurs plus sérieuses actions. Les jouets participaient à la Renaissance, comme ils le sont encore aujourd'hui, à la formation de l'adulte, c'est d'accord. Et sans doute le développement du jouet, l'attestation de sa prégnance sociale, lisible par exemple dans le tableau de Bruegel, prouve que le XVe et le XVIe siècle ont marqué une étape importante dans la reconnaissance de la personnalité infantile. Ils répondent indéniablement à toute une série de fonctionnalités, mais aussi à un besoin fondamental de l'humanité et même à certains animaux. Huizinga expliquait que le jeu était un moyen d'affirmer la liberté du sujet, mais aussi de mimer la vie réelle de façon fictionnelle, dans un temps et un espace limité, et enfin, y compris chez l'adulte, de permettre l'évasion et la construction de l'intime. Il y a tout ça dans le jouet. Et examiner ce processus historiquement, c'est donc se donner la possibilité d'une archéologie de la naissance de l'intime par le jouet. Impossible sans doute, étant donné le caractère un peu impressionniste de nos sources, de produire une sociologie fine du jouet de la Renaissance, même si l'on comprend en filigrane que le jouet participe bien de stratégies de distinction. Hein, c'est très clair. On peut faire observer que, aussi que le jouet populaire permet de faire percoler dans la société la plus large les valeurs et les gestes des catégories dominantes, même de façon parodique, comme dans le cas des chevaux jupons. La Renaissance, enfin, est le moment où l'on assiste à une première marchandisation internationale du jouet, puisque les poupées de bois des Pays-Bas méridionaux ou les poupées d'étain de Nuremberg se retrouvaient dans les halls des colporteurs à peu près dans toute l'Europe. Certaines ont été retrouvées dans la Tamise. Voilà. Donc cela n'avait évidemment encore rien de commun avec la prolifération du jouet de masque qui démarre au XIXe siècle, mais je pense qu'il y a là une belle préfiguration. Excusez-moi, j'étais trop long.